Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Le Brésil refuse d'organiser la COP25 l'année prochaine sur décision du président élu d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Une preuve de plus de son non-engagement pour le climat, alors qu'il reçoit aujourd'hui un haut représentant de l'administration Trump, connu pour son climato-scepticisme.
La CGT Mines Énergie s'oppose à toute réorganisation chez EDF. Elle appelle à la grève aujourd'hui, une mobilisation qui fait écho à la politique énergétique de la France annoncée par Emmanuel Macron avant-hier.
Gifles et fessées sont dans la ligne de mire du législateur. Une proposition de loi sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. 23 pays ont déjà voté une loi similaire en Europe.
Si la parité doit être obligatoire sur les listes des prochaines municipales, une loi doit être votée d'ici 6 mois. Il y a urgence, dit ce matin le Haut Conseil à l'égalité, vous l'entendrez.
Et puis, qu'est-ce qui pourrait stopper la mobilisation des Gilets jaunes? Épineuse question à laquelle s'attaque ce matin Frédéric Seitz dans son billet politique. Ce sera après ce journal. Qui donc, après la Pologne, pour organiser la prochaine conférence sur le climat? Le Brésil devait s'en charger l'année prochaine, se réjouissant de jouer un rôle de leader sur le climat, mais c'était avant l'élection, le mois dernier, de Jair Bolsonaro.
J'ai demandé à mon futur ministre des Affaires étrangères de renoncer à accueillir cet événement ici au Brésil. Il y a un enjeu majeur dans cet accord, l'enjeu du triple A. Qu'est-ce que c'est le triple A? C'est une grande bande qui englobe les Andes et l'océan Atlantique en passant par l'Amazone, une région de 136 millions d'hectares. Et le risque, c'est qu'on perde notre souveraineté dans cette région. En outre, les coûts de l'organisation de cette conférence seraient à mon avis assez exagérés compte tenu du déficit que nous avons déjà en ce moment.
Voilà pour ce recul fracassant, pas tellement surprenant toutefois de la part de ce responsable d'extrême droite. Nous rejoignons maintenant notre correspondante au Brésil, Anne Vigna. Comment analyser cette décision de Jair Bolsonaro?
Ce serait pour des raisons budgétaires que le Brésil renoncerait à accueillir la COP25 sur le climat l'an prochain. Une justification peu crédible étant donné le passé du Brésil. Ce dernier a en effet accueilli un nombre important d'événements internationaux, dont le sommet de Rio plus 20, et dispose de toutes les infrastructures pour cela. La véritable raison est plutôt à chercher du côté du nouveau gouvernement qui prendra ses fonctions dans un mois. Le prochain ministre des Affaires étrangères est ouvertement climato-sceptique et Jair Bolsonaro n'a jamais caché ses positions contre la protection de l'environnement. Pour le nouveau président, les pays étrangers cherchent à empêcher le Brésil de tirer parti des ressources de l'Amazonie en souhaitant une protection renforcée. Organiser la COP25 au Brésil aurait forcément mis en avant cette question, alors que la déforestation a encore augmenté ces derniers mois.
Effectivement, en un an, près de 8000 km² de forêt, surtout en Amazonie, ont été déforestés et Jair Bolsonaro compte réduire au maximum les territoires indigènes. Alors Jair Bolsonaro, climato-sceptique, rappelle évidemment les positions que peut avoir Donald Trump aux États-Unis. D'ailleurs, Anne Vigna, ce n'est pas un hasard, le président brésilien reçoit aujourd'hui le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton.
Une opportunité historique pour les relations entre les États-Unis et le Brésil. C'est en ces termes que le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, a qualifié la victoire de Jair Bolsonaro. Cela fait 2 ans que l'administration Trump ignore le Brésil et le président Michel Temer. Mais le ton a radicalement changé avec l'élection du candidat d'extrême droite. Les deux gouvernements ont désormais de nombreux points en commun et une même vision pour l'Amérique latine. Le Venezuela mais aussi Cuba sont dans leur viseur et il faut s'attendre à des mesures contre ces pays dès que Bolsonaro sera investi le 1er janvier prochain. L'administration Trump souhaite aller plus loin avec le Brésil, notamment sur la question de la Chine, un sujet qui inquiète beaucoup les investisseurs brésiliens et chinois. Si le Brésil suit les États-Unis dans leur guerre commerciale lancée par Trump, la position américaine sera très renforcée. Le Brésil est en effet le principal grenier de la Chine et son fournisseur de protéines, notamment du soja. Mais cette stratégie aura des conséquences au Brésil où la Chine pèse grandement dans la balance commerciale, mais aussi pour les investisseurs étrangers. L'économie brésilienne, à peine sortie de la récession, peut difficilement se permettre ce genre d'aventure. On ignore si c'est la raison ou la passion qui va l'emporter avec Jair Bolsonaro. Alors que Jair Bolsonaro rencontre demain John Bolton, un de ses fils est aux États-Unis pour fêter l'anniversaire de Steve Bannon, le gourou de Donald Trump. Des deux côtés, on renforce bien les liens d'amitié.
Anne Vigna depuis Rio de Janeiro pour France Culture. Voilà donc un nouvel axe mondial qui se crée alors que débute en cette fin de semaine le sommet du G20 en Argentine. Donald Trump doit y arriver dans la journée. Les débats s'annoncent houleux sur les questions commerciales et climatiques. La préservation de la planète, donc toujours à deux jours maintenant de l'ouverture de la COP24 en Pologne. Comment va le monde? Un dossier complet est à retrouver à ce propos sur franceculture.fr grâce à l'onglet COP24. En France, la transition énergétique, elle met en difficulté EDF en ce moment. Moins de nucléaire, plus de solaire, de géothermie, de méthanisation. Tout cela signifie une transformation en profondeur du premier producteur d'électricité en France. Les salariés craignent des suppressions de postes. Alors la CGT Énergie appelle aujourd'hui à la grève. Vaste défi pour EDF, nous explique ce matin Patrice Geoffron. Il est économiste et responsable du département énergie-climat à l'Université Paris-Dauphine.
Les défis d'EDF, c'est de parvenir à gérer d'un côté des actifs économiques qui ont une durée de vie très très longue. C'est le cas des centrales nucléaires, c'est le cas également de l'hydroélectricité. Et puis de voir apparaître à la fois des moyens de production et des acteurs qui sont des acteurs plus agiles, qui ont des cycles d'investissement qui sont assez courts, hein, ce qui est le cas plutôt sur le photovoltaïque, sur l'éolien. Et puis par ailleurs, d'être historiquement dans une situation de monopole pour ce qui est de la vente de ces services, mais de plus l'être du tout aujourd'hui. Donc là, c'est la dynamique européenne qui est en cours et qui conduit de plus en plus des consommateurs qui étaient liés historiquement à EDF à aller voir à la concurrence. Donc il faut gérer cet environnement très très mouvant et c'est donc le défi d'EDF. Et tout ça, il faut parvenir à le faire sans dégrader la qualité de notre électricité, qui est une électricité parmi les moins carbonées d'Europe, si on met de côté la Norvège, qui est dans un cas un peu particulier, qui est également parmi les moins chères. Et donc, c'est évidemment, dans ce contexte, à la fois un élément important pour nos concitoyens, qui sont mis sous tension du fait de l'augmentation du prix du pétrole et des fossiles de manière générale. Et puis, évidemment, un atout pour ce qui est d'ancrer des activités industrielles dans l'Hexagone.
Patrice Geoffron, il répondait à Hakim Kasmi. Et il évoquait à l'instant l'augmentation du prix du carburant, à l'origine de la mobilisation des Gilets jaunes depuis 13 jours, et notamment à La Réunion. Ce matin, la ministre des Outre-mer a de nouveau... La visite de la ministre a de nouveau été perturbée sur l'île par 200 manifestants. Hier, Annick Girardin avait annoncé des mesures spécifiques pour l'île de La Réunion, où plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Hausse de la prime d'activité, notamment hausse du minimum vieillesse et de l'allocation adulte handicapé. Et puis en métropole ce matin, par ailleurs, on apprend qu'une délégation officielle de Gilets jaunes sera reçue demain après-midi à Matignon, reçue par le Premier ministre Édouard Philippe et François de Rugy à l'écologie, et ce à la veille du troisième week-end de leur mobilisation. C'est peut-être une brèche pour les travailleurs dits ubérisés. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé hier qu'un livreur à vélo travaillant pour la plateforme de livraison Take It Easy n'était pas un auto-entrepreneur, mais bien un salarié. Un lien de subordination existe, a dit la Cour de cassation, une décision qui devrait faire jurisprudence. Les fessées et les gifles sur les enfants seront-elles bientôt interdites par la loi en France? Une proposition de loi sera étudiée aujourd'hui à l'Assemblée nationale contre les violences éducatives, violences de la part des parents, mais aussi des nourrices ou des enseignants. 54 pays ont déjà légiféré en ce sens, dont 24 en Europe. Alors pourquoi pas encore en France, Marion Aquilina?
Ce n'est pas la première fois que le gouvernement se saisit de la question d'interdire les châtiments corporels. En décembre 2016, c'est un amendement à la loi Égalité et Citoyenneté qui avait été voté, sauf qu'il n'a pas plu à certains sénateurs de droite qui ont saisi le Conseil constitutionnel au motif que c'était sans rapport avec l'objet principal de la loi. Ce qui était vrai techniquement, mais c'était aussi et surtout un prétexte pour empêcher qu'on interdise explicitement les châtiments corporels sur les enfants. Finalement, le Conseil constitutionnel a annulé l'amendement alors que la France allait devenir le 54e pays à interdire les châtiments corporels. Autre tentative qui avait échoué, c'était en 2014. François Hollande avait battu en retraite au moment d'un amendement sur la parentalité. Il a sans doute reculé pour éviter de rallumer une dispute sociale après les manifs pour tous, où la droite religieuse qui était contre le mariage homosexuel était sans doute pour le châtiment corporel recommandé dans le christianisme pour nous punir venir du péché originel depuis Saint-Augustin.
Et cette fois donc, en 2018, la proposition est déposée par la députée Modem Maude Petit, qui a reçu le soutien à titre personnel de Marlène Schiappa et du défenseur des droits Jacques Toubon. La droite et l'extrême droite, en revanche, dénoncent une ingérence dans la sphère privée. Mais il faut bien cela pour lutter contre les violences éducatives. Voilà ce qu'estime Daniel Delanoë, psychiatre et anthropologue, que nous avons joint, tendez l'oreille, par téléphone.
Il faut qu'il y ait une loi qui affirme la légitimité de l'interdiction. Tant qu'on a le droit de taper son enfant, grâce au droit de correction, il n'y a pas de raison d'arrêter. Donc quand ça devient interdit, les choses peuvent commencer à basculer. Il y a un effet symbolique de la loi qui est un levier puissant pour modifier les comportements et pour donner le crédit nécessaire aux campagnes d'information qui devront accompagner, bien sûr, cette interdiction avec toute la question qui va se poser, comment avoir de l'autorité et pas de la force. Quand on impose de la force à l'enfant, eh bien, ça fait des dégâts, contrairement à ce qu'on pense. Ça augmente l'agressivité, les troubles psychiques de l'enfant et plus tard chez l'adulte. Donc, il faut effectivement cette interdiction, un accompagnement sur comment éduquer un enfant sans violence.
Le chercheur Daniel Delanoë, auteur du livre « Les châtiments corporels de l'enfant » aux éditions RS. Elle aimerait bien voir un texte de loi à l'Assemblée rapidement sur son sujet, sur la parité dans les intercommunalités. La présidente du Haut Conseil à l'égalité remet ce matin un rapport en ce sens à la ministre de la Cohésion des Territoires. Depuis 2015 et la loi NOTRe, les intercommunalités ont de plus en plus de responsabilités, sans qu'aucune contrainte ne pèse sur elles en termes de représentation entre femmes et hommes. Il en résulte, Anne Fauquemberg, que la progression des élues féminines dans ces lieux de pouvoir stagne.
Ce qui est à l'œuvre n'est pas étonnant. En 2018, les maires sont encore à 84% des hommes qui, pour les plus petites communes, représentent à eux seuls leur territoire dans les nouveaux ensembles intercommunaux nés de la loi NOTRe. Et conséquence donc, il n'y a que 35% de femmes dans ces instances, un chiffre qui tombe à 20% si l'on regarde plus précisément la composition des bureaux exécutifs, et seulement 7% d'élus féminines sont à la tête d'une intercommunalité. Pour Danielle Bousquet, la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a urgence à mobiliser le législateur à 2 ans des municipales.
On sait qu'en France, à chaque fois qu'il n'y a pas de loi, la parité ne s'applique absolument pas. C'est-à-dire que ça n'est pas une tendance naturelle d'aller vers la parité. Pour les élections de 2020, il faut qu'il y ait une nouvelle loi et cette loi doit être votée 1 an avant le scrutin. Donc, c'est-à-dire avril 2019. Donc, il est urgent qu'il y ait un texte de loi qui effectivement travaille sur ces questions.
Daniel Bousquet qui formule une dizaine de recommandations, une action au niveau des communes, en obligeant toutes celles de moins de 1000 habitants à élire des listes paritaires. Elles ne sont pas obligées aujourd'hui. Autre scénario proposé, l'élection des membres des conseils communautaires au suffrage universel direct, en supprimant donc le lien avec les listes municipales. Enfin, le Haut Conseil souhaite étendre aux fonctions communautaires les limites du cumul des mandats, des fonctions aujourd'hui invisibles dans les règles en vigueur.
En Géorgie, c'est une femme qui a été élue présidente hier lors du second tour de l'élection, mais le progrès, si l'on peut dire, s'arrête là. Salomé Zourachvili, soutenue par le parti au pouvoir, a devancé hier le candidat d'opposition. Née en France dans une famille d'émigrés géorgiens, elle a notamment été l'ambassadrice de France à Tbilissi en 2003, avant d'intégrer le gouvernement du président Mikhaïl Saakachvili. Des soupçons de fraude massive pèsent déjà sur son élection. L'opposition accuse notamment le gouvernement d'avoir intimidé ou payer des électeurs.
8h13 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Et si la France, Clara, ne siégeait plus au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent?
C'est ce que l'Allemagne a suggéré hier soir par la voix de son vice-chancelier. Il propose à la place un siège représentant l'ensemble de l'Union européenne, Élise Delève.
Il n'y a que 5 membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. La France, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie et les États-Unis. Ils disposent d'un droit de veto. Beaucoup d'États aimeraient être invités à cette table des grands, mais depuis sa création en 1945, rien n'a changé. L'Allemagne pousse depuis plusieurs années pour une réforme de ce forum clé, mais les États n'ont pour l'instant jamais réussi à s'accorder. La proposition de Berlin de remplacer le siège français par un siège européen a relancé de façon controversée cet attendu changement. Olaf Scholz, vice-chancelier et ministre des Finances, a affirmé lors d'un discours sur l'avenir de l'Europe que si nous prenons l'Union européenne au sérieux, elle doit parler d'une seule voix à New York, au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France a réagi par l'intermédiaire de son ambassadeur aux États-Unis. Dans un tweet, Gérard Haro écrit que ce changement de siège est juridiquement et politiquement impossible. Fin de non-recevoir du côté français.
Élise Delève pour France Culture. L'Italie a adopté hier un décret controversé qui durcit sa politique d'immigration. Sur demande du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, les permis de séjour humanitaire seront plus stricts dorénavant, plus stricts et moins longs. Sur le volet sécurité, par ailleurs, le texte généralise l'utilisation de pistolets électriques et facilite l'évacuation des bâtiments occupés. Quelques mots de la météo pour ce jeudi qui débute en France métropolitaine. La pluie va tomber ce matin, des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France en passant par la Bretagne. Partout ailleurs, le ciel oscillera entre nuages et éclaircies avec un beau soleil sur le sud. Les températures sont toujours douces, 5 degrés à Strasbourg ce matin, 9 à Lyon et Bordeaux, 10 degrés à Paris et à Lille. Comptez 12 à Rennes, 13 degrés à Marseille.